J'aimerais ce matin qu'on parle un peu de rap, et même de rap français. Mais j'aimerais d'abord vous parler d'un homme. C'est un rappeur, mais pas tout à fait comme les autres. Un de ses premiers grands succès, il le doit à une apologie du couple et de son amoureuse. L'album s'appelait Héra, en référence à cette déesse grecque protectrice du mariage et de la fécondité dans le couple. Reconnaissez que ce n'est pas la thématique prioritaire habituellement dans le rap français. Là où Booba, par exemple, malgré son style étincelant, se vante de n'avoir pas lu de livre, lui cite volontiers Romain Gary ou Bukowski, Sandrars ou Mayakovsky, Françoise Sagan ou même Sylvain Tesson. C'est un rappeur, mais quand on voit les commentaires sous ses posts, on se demande parfois si c'est pas plutôt un club de lecture. Enfin, n'exagérons rien. La littérature n'est bien sûr qu'une influence parmi d'autres. Il y a la vie aussi. Le bleu noir de la dépression et tous les jeudis gris. La lumière noire et puis le soleil qui revient. Le soleil qui nous tire vers le haut. Il y a la Seine-Saint-Denis et le Roi Sané. Il y a Max Dormois et la Jamaïque. Il y a Basquiat aussi. D'ailleurs, écoutez comme c'est écrit, comme c'est bien écrit. Je vais créer mon style, l'art de la street comme Basquiat. Toi, tu veux mon cœur, mais dans ma tête, tu sais pas ce qu'il y a. J'ai dévalé la pente, elle était abrupte, elle était pas skiable. Il y a Basquiat et même Frida Kahlo, dont il interprète pour France Culture un poème d'amour « Ma nuit est un cœur qui bat ». Pour un peu et pour continuer à déjouer les clichés, il serait presque rappeur féministe, intimiste. Il dit d'ailleurs qu'il aime bien vieillir, qu'il sait que la célébrité ne guérira pas ses plaies, et ce n'est pas si fréquent, venant de quelqu'un dont les morceaux font 50 millions de streams. Je brise les codes à vive allure. C'est lui qui le dit dans Héra, et c'est de cela aussi que nous allons parler. Qu'est-ce que briser les codes? Ne faut-il pas d'abord les accepter un peu pour pouvoir les briser? Bref, ne faut-il pas d'abord monter dans l'avion pour pouvoir ensuite le détourner? Et d'ailleurs, lorsque j'oppose son rap intimiste à la mode dominante du rap français, lorsque j'oppose ses textes féministes à la prétendue misogynie des autres rappeurs, ne suis-je pas moi aussi en train de véhiculer un gros cliché? Pour en parler ce matin, de l'écriture rap, mais aussi de tous ces clichés et de notre manière de les combattre, j'ai la joie de recevoir celui que vous avez probablement reconnu, Giorgio, dont l'album Année Sauvage Partie 2 est sorti il y a peu. Giorgio, donc, qui nous a rejoint ce matin dans la caverne de France Inter, sous le soleil hivernal de Platon, pour nous aider à réfléchir à cette belle question: comment on écrit du rap aujourd'hui? Faut-il briser les codes pour toucher les cœurs?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Giorgio.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va super, et vous?
Bah super, je suis très heureux de vous recevoir. Ça fait à peu près 2 jours que j'écoute tous vos albums depuis maintenant longtemps. Le premier, c'était quand?
Mon premier album, c'était en 2015, Bleu Noir.
C'est ça, ça parlait de la dépression d'ailleurs.
Ouais.
Et puis, ensuite, on est arrivé à des choses plus solaires.
Ouais.
C'est ça qui est intéressant dans votre chemin de rappeur, de chanteur. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de diversité. On a l'impression que vous prenez plein d'influences tout le temps différentes.
Ouais, tout le temps. Parce que j'ai vraiment envie de faire une musique dans laquelle, en fait, je me plais à la faire. En fait, j'ai envie de m'amuser quand je fais de la musique. J'ai envie de qu'elle me représente vraiment. Et comme j'ai plein d'influences diverses et variées, c'est important qu'on les retrouve toutes. Et même Bleu Noir, c'est un album qui est, par exemple, qui est mon premier album, qui est très difficile, qui est assez dur, etc. Mais c'était un moment où je pouvais aussi énormément sourire, faire des blagues. Mais c'était une facette de moi que j'avais pas forcément envie de mettre en avant dans un premier album. Parce que même presque de culture, j'aime la musique mélancolique, les morceaux un peu tristes, etc. Ouais. Mais par contre, ça me représente, c'était tout ce que j'ai mis dans Bleu Noir, c'était vraiment moi, mais c'était pas entièrement moi parce que j'étais plus grand que ça,
ouais,
finalement.
Bien sûr.
Et du coup, j'avais besoin que de contrebalancer avec Héra et puis avec ce que j'ai fait par la suite après aussi.
Ouais, mais d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans votre chemin, c'est que un être humain, c'est complexe. Et en fait, parfois, on fait un livre, ou on fait une œuvre, ou un album, ou une chanson, en se focalisant sur une partie de soi. Parfois, les gens, ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas qu'en fait, on a fait une œuvre avec une partie de soi. Ça veut pas dire que les autres n'existent pas.
Ouais, tout à fait. Et moi, c'est marrant. J'ai compris autre chose encore hier que j'avais pas compris jusqu'à présent, c'est que parfois ça m'arrive à la fin des concerts, je prends toujours un moment pour rencontrer mon public, les personnes qui m'écoutent, prendre quelques photos avec eux, échanger quelques mots, et parfois ça m'arrivait à ce qu'on me dise: ah, merci Giorgio, tu m'as sauvé la vie. Et moi je trouvais ça toujours je trouvais ça presque un peu exagéré. J'avais pas l'impression d'avoir le pouvoir de sauver une vie. Et en fait j'ai compris hier dans une conversation que finalement, en fait, ma musique, une chanson à moi avait pu sauver une vie, mais qu'il fallait pas le personnifier avec moi, en fait. C'est pas moi l'artiste.
C'est la rencontre.
C'est juste ce morceau-là, en fait, qui a pu, comme moi, il y a des morceaux que j'ai saigné, que j'ai vachement écouté, qui ont pu influencer ma vie, changer des périodes de ma vie. Mais c'est jamais l'artiste, finalement, c'est que la chanson de 3 minutes 30, quoi.
Ouais, bah c'est très beau ce que vous dites. Vous dites, au fond, je ne suis pas tout entier dans ma chanson, mais c'est quand même ma chanson. Au fond, ce qui a sauvé la vie de cette personne, et peut-être d'autres personnes, on pourrait dire, c'est pas vous, Giorgio, mais c'est, on pourrait dire, la rencontre entre cette personne et sa souffrance à l'instant T, et cette chanson qui est de vous.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment ma pensée.
Ouais, et d'ailleurs, il y a beaucoup de rencontres dans votre travail. Vous avez fait plein de featuring. Récemment, dans votre dernier album, Année Sauvage Partie 2, il y a des featuring avec PLK, on va l'écouter tout à l'heure d'ailleurs, un truc qui cartonne bien, mais aussi avec Cœur de Pirate, avec Yoa, avec Josman. Vous avez préalablement fait des choses avec Luv Resval.
Oui.
Donc la rencontre, on sent que c'est important pour vous de rencontrer autre chose que votre univers.
Ouais, tout à fait, parce que pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve ça hyper cool dans un album d'entendre des nouvelles voix, d'entendre des nouveaux des chants ouais. lexicaux qui m'appartiennent pas.
Ouais,
qui sont pas de moi, et donc du coup ça, je trouve ça enrichit un album au global, ça met un nouveau souffle dans le projet, et puis je trouve que ça enrichit aussi un morceau, parce que un featuring c'est forcément deux univers qui se rencontrent, et finalement c'est toujours on va toujours les morceaux qu'on fait, c'est toujours des morceaux où c'est un peu le croisement de nos deux mondes qui ouais, s'unissent ouais. pour faire quelque chose et de nouveau, et que je peux pas faire seul. Et puis j'ai un peu l'impression aussi de, quand je fais ma musique, d'avoir mes super pouvoirs, et que les autres artistes ils ont les leurs, et que du coup de leur prendre un peu de leurs super pouvoirs et de les ramener sur mes projets aussi, c'est ça ouais. qui est aussi cool quand on fait une connexion, un featuring comme ça.
Alors on va utiliser, Giorgio, la chance de votre présence ce matin sur France Inter pour essayer de discuter un peu des principaux clichés sur le rap français, enfin, ou même pas français, mais il y a un cliché qui est souvent présent, c'est le côté c'est capitaliste, c'est de l'ego trip, c'est du shoot narcissique, et notamment c'est individualiste, on entend souvent ça. Mais c'est un peu bizarre, parce que déjà tous ces featuring, ça prouve bien que c'est pas que des shoots d'ego, puisqu'on invite l'autre, et puis il y a aussi beaucoup cette notion de bande, de crew, d'équipe quoi.
Ouais, tout
donc
à
finalement
fait, ouais.
qu'est-ce qui l'emporte ? C'est le shoot d'ego ou c'est la bande et l'équipe ?
Pour moi c'est plus l'équipe, parce que il y a même aussi l'idée de pouvoir continuer à être avec ses amis, de pouvoir faire même dans la mesure du possible bosser un peu ses amis autour de nous. C'est énormément de rencontres. Même n'importe quel rappeur, il fait pas sa musique tout seul. Il y a beaucoup de producteurs, il y a beaucoup ouais. de personnes. Même
il y a quand même souvent un seul nom sur l'album.
Oui, oui, parce que c'est son album à lui. C'est l'album de, par exemple. J'ai énormément bossé à Année Sauvage partie 1 et 2 avec un producteur qui s'appelle Lucci, mais ça reste mon album, même s'il a énormément travaillé dessus et qu'il est dans les crédits. Et puis je pense en fait que le rap, c'est vraiment le reflet de la société et d'un milieu social qui est souvent décrit ouais. par le rappeur, peu importe lequel. Et on vit dans une société qui est aussi capitaliste. La question, ça serait de se demander, mais qui est-ce qui est et comment on construit nos rêves ? Et le rap, il parle de nos rêves d'une certaine manière aussi.
Et d'ailleurs, on va tout de suite écouter un premier extrait de vous que j'ai choisi. C'est un titre que j'adore, Basquiat, que je trouve très bien écrit.
Je vais créer mon style, l'art de la street comme Basquiat. Toi, tu veux mon cœur, mais dans ma tête, tu sais pas ce qu'il y a. J'ai dévalé la pente, elle était abrupte, elle était Basquiat.
Donc ça, c'est un exemple de votre écriture. On voit quand même que c'est assez travaillé.
Alors, ce refrain-là, pour être honnête, c'est Bécart qui l'avait écrit.
Ah oui, vous êtes
écrit.
Deux.
Ouais. Ouais, on est deux sur le morceau.
Encore une rencontre.
Et encore une rencontre. Et en fait, on était à Barcelone tous les deux en vacances, et on montait une montagne. Et il allait sortir son premier album, et il me fait écouter une première version de ce morceau. Et je lui dis, mais pourquoi tu gardes pas ce morceau ? Il est incroyable. Et il me dit, ouais, mais il rentre pas forcément dans l'ADN de l'album, etc. Et je lui ai dit, bah, tu sais quoi, si tu le gardes pas, viens, enlève. Il avait un de ses couplets qu'il aimait un peu moins. Je lui dis, enlève un de tes couplets et on le refait à deux. Et du coup, on l'a refait à deux, ce morceau, ensemble. Ouais.
Ah ouais. Mais est-ce que parfois ça vous arrive de chanter quelque chose qui n'est pas de vous et d'avoir l'impression que c'est plus de vous que si c'était de vous?
Alors là, en fait, en l'occurrence, c'est moi qui chante son refrain au début du morceau, puis après il fait le deuxième refrain et on le chante à deux à la fin. Et en fait, évidemment que je me suis reconnu dans cette manière d'écrire et dans ce que ça disait, et que donc du coup j'arrive à l'interpréter comme si c'était moi. Mais après, c'est finalement une des seules rares fois où j'ai pas écrit. Ouais, sinon, ça, tout ce que je rappe, tout ce que je chante aussi, c'est moi qui l'écris, ouais.
Alors, vous avez raconté qu'à un moment de votre vie, vous avez été en échec scolaire, vous avez arrêté l'école à 14 ans, puis vous l'avez repris jusqu'à 16 ans.
Ouais.
À ce moment-là, vous avez d'ailleurs vécu chez votre grand-mère et j'invite tout le monde à écouter le titre La Selle Saint-Cloud, où vous parlez de votre grand-mère, qui est un très joli titre. Mais c'est pas pour ça que je parle de ça maintenant, c'est pour arriver à Romain Gary. Parce que vous racontez que la rencontre avec Romain Gary a été importante, que peut-être elle vous aurait sauvé la vie, ou en tout cas apporté quelque chose de fort. Et je vous propose d'écouter la voix de Romain Gary, parce que je crois que dans ce qu'il nous dit là, dans un extrait de 1956, on entend aussi peut-être ce qui se passe quand il y a un rappeur qui parle d'un personnage et que le public, au fond, confond le personnage de la chanson avec le rappeur lui-même.
On m'a toujours reproché des choses à cet égard, dont je vous donnerai un exemple précis à l'instant. Par exemple, dans un livre, j'ai écrit en parlant d'un gamin de 14 ans qui fait une espèce de monologue intérieur, qui veut s'attendrir lui-même sur une situation qu'il crée de toutes pièces, qui n'existe pas. Il dit, en parlant de sa petite amie, elle gisait à mes pieds, mortellement tuée. C'est un gamin de 13 ans qui ne sait pas très bien, qui veut s'émouvoir. Alors on a dit, Romain Gary ne sait pas qu'on ne peut pas dire mortellement tuée. Dans la même situation, le même personnage, un peu plus bas, dit, la petite était devenue aveugle, et je lui lisais à haute voix le livre pour aveugle en écriture de braille. Alors, des critiques me disent, mais monsieur Romain Gary, mais voyons, mais on ne peut pas lire, on ne lit pas à haute voix un livre pour aveugle en écriture de braille, les aveugles le lisent eux-mêmes. Alors voilà, ça c'est important, parce que c'est que le langage du personnage est attribué à l'auteur. Le langage est projeté par l'auteur sur le personnage pour le décrire, pour le situer, pour le préciser. Alors on l'attribue à l'auteur, on oublie le personnage.
Ça vous est arrivé parce que par exemple, ce qui est arrivé à Aurel San avec Sale Pute, on l'a reproché ce morceau, en fait il faisait vivre un personnage qui à un moment insultait la femme qu'il avait trahi ou trompé. Et tout le monde a confondu au fond Aurel San avec le personnage.
Ouais, c'est ça. Après, il y a toujours, je pense, un truc d'éthique et de compréhension de texte entre ce qu'on fait dire à un personnage et qui on est et comment on se positionne vis-à-vis de ça. Mais quand c'est ce que je trouve difficile dans la reproche qu'on a pu faire à Romain Gary dans l'extrait qu'on vient d'entendre, ou par exemple sur le morceau d'Aurel San, c'est que le morceau d'Aurel San, il est contextualisé, c'est comme une sorte de court-métrage.
Ouais.
Exactement comme quand il fait son morceau sur la manifestation dans son dernier album. Et en fait, on autorise... au cinéma de pouvoir mettre en scène une certaine forme de violence, mais pas forcément au rap, parce que finalement il dit je comme s'il incarnait son personnage, alors que ouais, non du tout.
Et finalement, si vous deviez interpréter le fait que le rap triomphe comme ça, ça devient la musique la plus écoutée de France, au fond, selon vous, c'est pourquoi? Est-ce que c'est que le rap a changé et qu'il est devenu mainstream? Ou est-ce que c'est qu'il n'a pas changé, mais qu'il a gagné quand même?
Moi, j'ai l'impression que ce qui fait que le rap aujourd'hui est la musique la plus écoutée en France, c'est aussi parce que le rap, il s'est toujours remis en question et il a toujours évolué. C'est-à-dire que le rap des années 90, c'est pas du tout le même, même en termes de sonorité, de musique que le rap des années début 2000, qui est pas le même que le rap des années 2010, qui est pas le même qu'aujourd'hui en 2023, parce que les instrus changent, les flows changent, les sonorités changent complètement, et même le vocabulaire se met à jour avec le vocabulaire jeune qui évolue constamment, quoi. Et donc je pense que cette remise en question et cette évolution du rap perpétuel, ça permet au rap de toujours rester dans son temps. Et en plus, avec le temps, il s'est élargi. Tous les codes du rap se brisent au fur et à mesure. Et donc, bah, il y a du rap aujourd'hui pour tout le monde.
Ouais, d'ailleurs, vous avez, dans Era, vous disiez, je casse tous les codes à vive allure. Et des années après, dans Jamaïque, qui est un morceau de votre dernier album, Année Sauvage, partie 2, vous dites encore, je veux casser les codes. Mais est-ce qu'on les casse vraiment, les codes? Ou est-ce qu'il ne faut pas d'abord un peu les accepter pour jouer avec un peu plus à la marge?
Oh bah si, tout à fait. Pour moi, pour casser les codes, il faut les connaître. Il faut dans le rap, il faut les connaître. Et après, une fois qu'on connaît les codes, qu'on connaît cette culture, on peut justement aller plus loin tout en la respectant.
Ouais, c'est ça. Je vous propose d'écouter un morceau de PNL qui a remporté un succès fou pour essayer de voir si là il y a une rupture de code et surtout qu'est-ce que ça dit de notre époque.
Je t'aime. Waouh, 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 wow, à la folie. Waouh, 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 wow, passionnément. Waouh, 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 wow, à l'ammoniaque. Waouh, 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 wow, je t'aime.
Wow, alors, Giorgio. Comment expliquer? Vous en pensez quoi, ça?
Bah, moi, j'aime beaucoup. Je pense qu'à partir du moment où les rappeurs se sont autorisés à chanter eux-mêmes leurs propres refrains ou dans les couplets, où la mélodie est rentrée dans le rap, ça a ouvert le rap encore plus, ouais. Mais de manière bénéfique. Ça l'a rendu plus mélodieux. Et du coup, c'est que plus riche musicalement.
Mais alors du coup, j'ai l'impression que, enfin, c'est mon sentiment à moi, vous me dites ce que vous en pensez, que là, en même temps, quand PNL fait ça, on retrouve, il y a quelque chose de contemporain, mais il y a aussi, on retrouve presque l'essence du blues.
Ouais, alors j'ai pas une assez bonne culture du blues pour donner mon avis là-dessus, mais ouais, c'est sûr qu'il y a, en plus on se rapproche même dans les flows de quelque chose de très chanson.
Ouais, ouais.
Et je pense que ça, c'est comme un espèce de revival de la culture du sample, de prendre dans d'autres musiques, de s'inspirer d'autres choses pour créer sa propre musique, quoi.
Ouais, alors donc PNL, le morceau qu'on a écouté à l'ammoniaque, c'était donc 2019. Maintenant, je propose d'aller en arrière. On va arriver en 2006 au niveau de Boulogne-Billancourt, de Boulby. Écoutons Booba Westside.
Bordel, quand on rentre sur la piste. On est venu teaser, claquer du pif. Pas d'embrouille, man, pas de litige. Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges? Haute scène, marcheur en l'air sur la piste. MC Gabriel.
Alors Giorgio, 2006, Boulby de Booba. Vous aviez quel âge?
Moi j'avais 13 ans.
Vous vous en souvenez?
Je m'en rappelle très bien, parce que c'était un énorme tube. Le clip, il passait tout le temps à la télé, à la radio.
C'est exactement l'âge où vous vous êtes dit, je vais faire ça en fait.
Ouais, tout à fait, ouais.
Donc ce morceau, il a été important pour vous?
Cet album, même carrément, c'est un album que j'ai pas mal écouté, l'album Westside de Booba. Et ouais, c'est. En plus, quand on a 13 ans, on reçoit. La musique nous impacte différemment, elle a presque une plus grande importance, c'est beaucoup plus fort. Et ouais, j'écoutais déjà beaucoup, beaucoup de rap français à cette époque-là. Ouais.
Et finalement, vous dites le rap m'a sauvé la vie. Pour le coup, c'est ouais. La vôtre cette fois, pas celle de ceux qui vous écoutent. Vous pouvez préciser comment ça s'est fait, peut-être quand ça s'est fait, quel était le risque majeur duquel le rap vous a protégé?
Déjà, au-delà de m'avoir protégé, il m'a surtout énormément donné le rap. En fait, c'est parce que il m'a offert une passion et une vie. Qui est vécu autour d'un amour inconditionnel pour ouais. La musique grâce au rap et moi en plus quand j'étais jeune j'avais besoin de tester mes limites mais ouais. Pas seulement mes limites mais les limites des gens qui m'aimaient qui étaient autour de moi et du coup je faisais quand même pas mal de conneries j'avais vraiment très peu d'intérêt pour l'école, je savais pas forcément ce que je voulais faire de ma vie plus tard, tout était un peu flou. Et en fait, le rap, il m'a sorti d'un chemin ouais. Brumeux. Et en fait, il m'a offert des rêves, il m'a offert de la détermination, du courage, des valeurs. Ça m'a fait plein de rencontres Parce que quand j'avais, par exemple, 17-18 ans, je faisais beaucoup d'open mic,
ouais.
qui sont des micros ouverts. C'était essentiellement dans des squats, dans la rue, dans des bars, etc., où il y avait des DJ qui passent des instrus, on pouvait rapper, on rencontrait d'autres rappeurs. J'ai fait plein de rencontres comme ça, plein d'amitiés.
Ouais, ça vous donc, a ancré, en fait. Ça vous a ancré. Ouais,
ça m'a ancré, et puis ça... Ouais, ça m'a fait exister, en fait.
Et vous avez dit plein de choses assez fortes. Ça m'a donné des rêves, mais aussi vous avez dit des valeurs. Lesquelles ?
De détermination, du travail, de la discipline. Moi, par exemple, dès que j'ai pu avoir la chance de faire mes premiers concerts, je voulais faire des vrais concerts, vraiment les bosser. Et autant quand je travaillais en intérim,
ouais.
je m'en foutais, je me rendais pas compte de ce que ça représentait, le sens de l'effort. Et en fait, c'est la musique qui m'a offert ça.
Et ben, on va enfin écouter un des premiers extraits de votre dernier album. Donc, c'est Les Alizés en featuring avec Patrick Watson, le Canadien, issu de votre dernier album, Les Années Sauvages, partie 2.
J'arrivais d'un monde sans frontières où il n'y avait pas de classe sociale, pas de nom, pas de prénom. Si pour de l'argent, certains changeraient la pluie en balle de plomb, changeraient l'odeur des fleurs en celle du pétrole. Mais jusqu'ici tout va bien, enfin tant qu'il y a du réseau. Plus je m'approche de la vérité et plus je sens sur mes mots, pour pas blesser, pour pas voir du sang sur les autres. De la poussière et de la crasse, souvent la vérité agace. On s'en veut quand on dit rien, fermer les yeux améliore pas le quotidien. Alors il me faut cette Mercedes de bourgeois, cet appart de bourgeois, tout en restant un petit louvois, ouais, qui fonce tout droit. Y'a trop de choses que j'oublierai pas, surtout les gens que j'aime et ceux qui me détestent. C'est pour ça que je tape sur mes réflexes, guidé à l'instinct sans GPS. Je suis l'amour sans peur de la mort, et quand bien même ça peut rendre fou, c'est comme ça que je perds pas le nord. Indigné, je te sers un petit punch dans un casque de CRS. Et si nos plans déraillent, on s'enfuira par l'Orient Express. Soirée mondaine, pour pas que tu captes que je suis high, que je m'en fous d'être ici, que je serais mieux avec ma meuf allongée sur le sable, les pieds gratinés à cause de la barrière de corail. Aventureux, j'ai jamais eu peur du feu, encore moins quand j'étais sur la paille. Je me suis déjà senti connecté au point de sentir venir un drame. Tout cela à vouloir faire de l'argent, à faire rigoler le diable. Heureusement, je le tiens à distance, j'ai ma foi en guise de jab. Suffit d'un regard pour se comprendre, des mots que personne pourra relire. Si j'ai confiance, y'a plus aucune promesse que je pourrais pas tenir. Je voyage d'est en ouest comme les Alizés, avec des souvenirs à éteindre et puis des flammes à raviver. Sincèrement, je comprends ton stress et ton eczéma quand la nuit ça dort pas, alors qu'il y a ni NBA ni MMA. Et si on racontait nos parcours, c'est sûr que ça ferait pas rêver, mais y'a des choses qu'il faut plus vivre que expliquer.
C'était Les Alizés de Georges Duo.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Giorgio, le rappeur français sous le soleil de Platon. Nous avons bien de la chance. On vient d'écouter donc Les Alizés avec Patrick Watson, un extrait de votre dernier album Nos Années Sauvages, volume 2. Déjà, c'est intéressant. C'est très différent, par exemple, de l'autre titre Basquiat qu'on a entendu tout à l'heure. Et c'est aussi l'histoire d'une rencontre. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à... C'était à Montréal, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Mais moi, j'adore voyager, aller dans d'autres pays. Découvrir d'autres cultures, d'autres manières de vivre. Et j'ai eu la chance, encore une fois, grâce à la musique, de partir faire des concerts à Montréal en 2016, fin 2016 pour la première fois.
Ouais.
Et de rencontrer du monde là-bas et de me faire des amis. Et c'est une ville que j'aime beaucoup parce que j'adore les grandes villes, l'énergie des villes. Et je trouve qu'il y a une énergie particulière à Montréal car c'est une très grande ville et en même temps c'est très doux.
Ouais.
C'est pas speed, ça je trouve que c'est pas une ville qui peut nous dévorer comme Paris, etc. Et donc du coup j'avais envie de partir là-bas en plus comme j'ai des amis qui ouais. habitent pour faire une partie de la partie 2.
C'est très grand et c'est doux, hein, un peu comme vous quoi. Vous êtes identifié à Montréal.
J'essaye.
Alors, dans cette chanson, je vous interromps parce que après, je vais oublier. Vous dites, ouais, la voiture de bourgeois, la vie de bourgeois. Il y a ce mot bourgeois qui revient, qui est scandé comme ça. Ça nous permet peut-être de questionner aussi ce qu'on voulait faire depuis le début, les clichés sur le rap. Finalement, en fait, le rap est très diversifié. En fait, il y a de tout. Mais peut-être, cette espèce de cliché sur le rap, bling, etc. Est-ce qu'au fond, c'est pas du racisme? Est-ce que c'est pas du mépris de classe? Comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle musique, on parlait de musique de sauvage, ça a été pareil pour le rock, pareil pour le jazz. Est-ce que finalement, cette absence de nuance, en fait, et de façon de distinguer les différentes façons de faire du rap, est-ce que ça révèle pas presque un préjugé de classe sociale, quoi?
Ah bah complètement, ouais. Complètement, je pense que le rap, il est carrément victime de ça, qu'il y a clairement du mépris vis-à-vis de cette musique et de ceux qui la font, quoi. Vraiment.
Et comment on peut combattre ça? Bah peut-être en faisant ce que vous faites, en étant tout terrain. Vous êtes allé sur France Culture reprendre un poème de Frida Kahlo, mais en même temps vous faites aussi des zéniths.
Bah, je sais pas si je pense que c'est plus au contraire, j'ai l'impression que pour combattre ça, il faut faire sa musique telle qu'on la pense, en étant nous-mêmes, jusqu'à ce que ça devienne assez fort pour intéresser les autres et qu'ils aient un autre regard sur le rap. Je pense qu'au contraire, j'ai toujours été moi-même, c'est-à-dire que je vais pas m'interdire quoi que ce soit, mais je pense que par exemple le fait de lire des textes de Frida Kahlo ou des poèmes ou des choses comme ça, sur des médias qui sont pas forcément visés à un public rap, ça donnerait de la légitimité à m'écouter en disant bah écoutez on peut écouter ce rap là parce qu'il comprend ces codes là, il comprend ces codes là, alors qu'en fait on s'en fout que j'ai lu ça ou que j'ai écouté ça ou que j'aime ça pour faire ma musique finalement.
Bah, bien sûr.
On n'a pas besoin de ça.
Je comprends très bien ce que vous dites. En fait, vous n'avez pas besoin de montrer patte blanche, voilà, en disant j'ai lu ça, j'ai lu Rimbaud, je connais Frida Kahlo, donc je suis des vôtres. Je comprends très bien. Et d'ailleurs, quand je vous ai présenté au début, j'ai bien précisé que c'était une influence parmi plein d'autres.
Ouais, et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs.
Mais on va quand même écouter, parce que j'ai trouvé ça très beau, cette interprétation de ce poème de Frida Kahlo sur France Culture. On va quand même l'écouter un petit peu, maintenant, et puis après, on en reparle.
Ma nuit est comme un grand cœur qui bat. Il est 3h30 du matin, ma nuit est sans lune. Ma nuit a de grands yeux qui regardent fixement une lumière grise filtrée par les fenêtres. Ma nuit pleure et l'oreiller devient humide et froid. Ma nuit est longue et longue et longue, elle semble toujours s'étirer vers une fin incertaine. Ma nuit me précipite dans ton absence. Je te cherche, je cherche ton corps immense à côté de moi, ton souffle, ton odeur. Ma nuit me répond vide, ma nuit me donne froid et solitude. Je cherche un point de contact. Ta peau, où es-tu, où es-tu? Je me tourne dans tous les sens, l'oreiller est humide. Ma joue s'y colle, mes cheveux mouillés contre mes tempes. Ce n'est pas possible que tu ne sois pas là. Ma tête erre, mes pensées vont, viennent et s'écrasent, mon corps ne peut pas comprendre.
Ouais, c'est beau, hein. C'était dans quel cadre?
Alors, c'est une lettre de Frida Kahlo qu'elle a écrite pour Diego Rivera, qui était son compagnon.
Ouais.
Et c'était dans le cadre du festival littéraire de Paris, qui avait demandé une commande à un musicien chef d'orchestre qui écrit des partitions qui s'appelle Issam Krimi,
ouais,
qui avait monté ce projet qui s'appelait Prose, où donc on reprenait des textes qu'on aimait, donc dont cette lettre de Frida Kahlo, avec un autre rappeur qui s'appelait Esprit Noir, et puis des morceaux à nous, et donc tout était joué avec un quatuor à cordes, Issam Krimi au piano, et puis après il y avait Dietweiser, qui est un beatmaker, ouais, et donc en gros c'était une formation un peu spéciale avec ses lectures.
Ouais. Alors, donc du coup, même si j'ai passé le son parce qu'il est beau, j'ai bien compris votre argument qui est très fort. Il s'agit pas de plier les chines et de dire aux bourgeois voilà, je connais vos codes, mais d'être authentique et de faire sa musique. Et d'ailleurs, ça m'amène à une autre question. À un moment, donc ce que vous faites parfois, ça cartonne parfois. Je crois le dernier truc, c'est 50 millions de streams. Donc du coup, j'imagine qu'il doit y avoir une tentation qui est de vouloir être numéro un, de vouloir tout prendre. Et comment vous faites la part des choses entre cette tentation-là et le fait de suivre plutôt votre ligne musicale pour être authentique, en sachant que peut-être sur le long terme, c'est ça qui marchera?
En fait, c'est des questions que je me suis réellement posées. Qu'est-ce que j'ai en fait quand ça commence à marcher et on veut toujours plus, évidemment. Et en même temps, on a envie. Moi, j'aime tellement la musique que j'ai envie de la faire la plus librement possible. Et évidemment, que je me suis posé la question à des moments bien précis. Est-ce que j'ai plus envie d'être une star ou de faire ma musique, quitte à accepter d'avoir des morceaux qui marchent, d'autres qui marchent moins. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est ça qui me rendait le plus heureux. Et donc, évidemment, que j'ai envie d'être écouté par le plus de personnes possible et de jouer ma musique devant le plus de monde possible en concert, etc. Mais je pense que le plus important et où je me trouve le plus en paix avec moi-même, c'est quand je fais ma musique le plus librement possible.
Et bien justement, on va écouter un autre extrait de vous. Cette chanson Era, il y a très longtemps. Un de vos premiers succès finalement.
Ouais.
Un jour j'ai rencontré Era et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Un jour j'ai rencontré Era et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Prendre juste un sac et pas de bagages en soute. Aujourd'hui j'ai les idées claires, je me cache, je laisse pas l'âme dans le flou. Une fois la tour est
alors,
faite derrière.
Alors avec le recul, vous en pensez quoi?
Moi j'aime toujours ce morceau, ouais, parce que il me rappelle des bons souvenirs. C'est un morceau que je joue toujours en concert Oui, c'est vraiment mon premier morceau qui a vraiment énormément marché. Et donc, du coup, j'ai un lien affectif très fort encore avec ce morceau. Puis j'aime toujours le texte, j'aime toujours la musique. Ouais, c'est un morceau important à mes yeux.
Ouais, il marche bien. Hein.
Ouais, merci.
Alors Giorgio, vous avez joué votre première grande scène en janvier 2016 à la Cigale. Vous aviez à peine 23 ans. Qu'est-ce qui reste comme souvenir de ça, 10 ans après presque, 8 ans après?
C'était des super souvenirs parce qu'il y avait ma famille dans la salle, il y avait mes amis. D'ailleurs, je me demande si j'avais pas fêté. Je crois que j'avais fêté mes 23 ans sur scène.
Ouais.
Ouais. Parce que c'était le lendemain de mes 23 ans et il y avait mon petit frère. Anatole avec mes potes qui étaient montés sur le dernier morceau, m'arrosé de champagne, etc. et tout. Et donc en fait c'est un super souvenir. C'était vraiment le début de quelque chose qui allait devenir encore plus grand et je chantais qu'il se passait un petit truc à ce moment-là en remplissant puisqu'on en avait fait deux Cigales et ouais c'était assez incroyable.
Vous avez l'air assez serein, cohérent, de résister à certaines sirènes, mais pourtant dans ce chemin il y a des moments où vous avez un peu dérapé, où vous regrettez certaines choses. Il y a pas des choses?
Non parce que toutes les entre guillemets les erreurs que j'ai faites, je pense que je les ai plus faites dans ma vie d'homme ou quoi que ce soit, mais rien qui est lié à l'artistique, au fait d'avoir un peu de notoriété, etc. Et rien qui a eu un effet néfaste sur ma vie ou celle des gens autour de moi, donc non, ça va.
Georges, j'aimerais avoir votre réaction à ce texte d'Aurel San.
J'ai peur de jamais finir mon album, j'ai plus d'inspi, de toute façon j'ai plus envie de devenir chanteur, j'ai plus qu'un spige. Quand je regarde mes clips, je trouve que je fais pitié. Ce que je raconte dans mes chansons, c'est des clichés, c'est pas la vérité. La célébrité me fait peur, j'ai peur de me griller les ailes à vouloir briller sous les projecteurs. Au fond, je m'en bats pas les couilles de ce que disent les gens. Je me perds entre ce qu'ils attendent de moi et ce que je suis vraiment. Tous les jours, je fais l'acteur. Je fais semblant. Je maquille la peur en plaisantant. Je perds mon temps à me poser des questions au lieu d'agir. J'ai peur de la dépression. J'ai peur de l'avenir et ses déceptions. Plus je grandis, plus le temps.
Alors, Farjo, c'était Aurel San, évidemment. Peur de l'échec. C'est quoi votre plus gros échec, mais au sens plus intéressant? L'échec de votre chemin de vie qui vous a le plus nourri. L'échec le plus vertueux, au fond.
Mon album XX5,
ouais,
qui est sorti après Era. C'est même pas vraiment un échec, parce que c'est un album, aujourd'hui j'en ai vendu environ 40 000, donc c'est énorme, et j'en suis bien conscient. Mais derrière Era, qui est aujourd'hui disque de platine, c'était moindre, alors ouais, que je pensais on continuait à monter. Et justement, c'est un moment qui m'a permis de me poser la question de qu'est-ce que je voulais le plus entre la célébrité et faire ma musique librement. Donc
c'est la bonne question qui est venue, voilà, de cet échec
et
relatif.
Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était juste un échec à mes yeux, mais pour autant, je déteste pas cet album, bien au contraire, parce que déjà, je trouve qu'il y a des super morceaux dedans, et que c'est un album qui m'a permis beaucoup de remises en question et par lequel j'avais besoin de passer pour avancer. Ouais. Donc ouais, c'était vraiment constructif.
Mais par exemple, vous avez remis quoi en question?
Justement, qu'est-ce que j'avais envie de faire dans la musique? Quelle trace j'avais envie de laisser finalement? Et du coup, par quoi ça passait en fait? Qu'est-ce que je voulais donner de moi? Comment je voulais que ma musique sonne, quitte à avoir du succès, quitte à pas en avoir, etc. quoi.
Ouais. Et si on remonte avant, notamment au collège, parce que souvent on parle de l'échec scolaire comme quelque chose qui est pas très important. Moi, je crois, en tant que prof d'ailleurs, mais en tant que citoyen, qu'en fait aucun enfant le vit bien. C'est toujours très désagréable. J'ai lu une interview de vous où vous racontiez que ce problème que vous aviez avec la grammaire vous semblait presque une injustice, parce que vous avez des choses à dire, des choses à exprimer, mais la grammaire ne suivait pas. Cet échec scolaire, il a été important ou finalement vous êtes passé à autre chose très vite?
Non, ça a été important. C'est pour ça que j'en ai aussi parlé dans mes textes quand même pas mal de fois. Parce
oui,
que
dans
je
Mauvais
sais
Élève,
quel...
notamment.
Ouais, et puisque je sais à quel point ça peut faire souffrir, à quel point c'est aussi une lutte, parce que finalement, quand on sort du système aussi jeune, on est un peu seul contre le monde. Et c'est jamais agréable, c'est jamais facile à vivre. Surtout que le collège, c'est un âge où finalement on n'a pas du tout envie d'avoir une identité propre à soi, on a envie de se fondre dans la masse, de ressembler à tout le monde, et donc du coup, ouais, c'est pas facile à vivre du tout, non.
Vous écrivez dans Mauvais Élève, qui est un des titres de votre dernier album, oui, qu'en général on comprend pas bien ces garçons qui ont ouvert leur cœur avant d'ouvrir le bécherel.
C'est ça, bah oui, parce qu'en fait c'est l'orthographe, la grammaire, ça peut très vite nous enlever du crédit, en fait. Ça peut très vite décrédibiliser une parole, alors que finalement on peut avoir des choses à dire, qui sont très très justes, mais si la forme grammaticale ne l'est pas, eh ben on va pas être écouté de la même manière, quoi.
Mais quand même, est-ce qu'on peut pas imaginer que votre façon de travailler vos textes, de chercher la justesse, c'est pas comme une justice après ce rendez-vous manqué, quoi, avec l'école?
Ouais, si, d'une certaine manière, ouais, c'est ma justice à moi, c'est d'être et puis en plus, comme ça, mes textes, on n'a pas besoin de les lire, faut les écouter. Et c'est ma manière comme ça de pouvoir m'exprimer, ouais.
Mais c'est surtout que parfois, la grammaire, même quand on la maîtrise, c'est une prison. Parfois, il vaut peut-être mieux déconstruire la grammaire pour trouver sa voie.
Ouais, et puis j'ai sûrement, parce qu'en plus, j'ai l'impression que la déconstruction, c'est positif à l'ordre du jour, au-delà de la grammaire.
En plus. Écoutez, Giorgio, on va écouter un deuxième morceau, une deuxième chanson de votre album Nos Années Sauvages, partie 2. C'est le duo avec PLK et c'est un gros carton.
Un verre de sky pour noyer l'amertume. On sent le CR quand Paris devient désert et que la galère tue.
t'accélères. La vie passe trop vite au final. Pour perdre du temps en cellule ou dans une chambre d'hôpital. Laisse-moi faire ma zig, je suis pas dans ton copinage. J'ai des gars à l'asile qui reverront plus jamais un coquillage. M'en sortir et voir mon copilote dans le corbillard. Marquer mon époque comme Drogba en Côte d'Ivoire. J'écoute Oxmo, j'écoute Pop Smoke. T'écoutes mon dernier titre, tu me dis que c'est trop chaud. Mais rien que ça boycotte, c'est tout pour la famille, tout pour la déter. Petit, laisse-les parler, ils parleront jamais des gens qu'il y a derrière. Et vas-y, fin d'eux, c'est mort pour les ingrats. Protégé par Dieu, je peux assurer les fins de mort. Quand je pense à ma vie, c'est abusé, je suis peut-être miraculé. Comme Santa Maria de Guadalupe. Mes rêves m'accompagnent, les yeux ouverts, c'est classique. Je veux rouler sur l'or, pas mettre de la merde sur mes ASICS. C'est simple et basique, je viens de là où si tu payes pas, tu prends ton tarif. Demande à El Aziz.
J'ai grandi dans ma tête, j'ai perdu dans la fête. J'ai grandi dans ma tête, j'ai tout dit dans la tête. Je serai plus dans le mal, sentimental.
On cherche la mort ou une meuf pour donner la vie. Puis y'a des jours où tout s'écroule sur les trucs qui étaient acquis. Alors on devient un peu méfiant. Je rêve plus comme un adolescent. Je donne plus ma force dans tous les sens. J'ai dû écouter tous les samples, tous les vinyles, tous les CD. Chaque compte, je paye en CB. Madame la juge, je suis inséré. Tu peux me rendre mes scellés. Tu sais, nous on est des tombes. On aime pas trop quand faut les barres. Depuis petit peu, je suis à l'écart. Je suis dans la guerre, je suis dans la war. Ouah, on cache nos sentiments. Toujours sérieux comme sentinelle. Dis-moi pourquoi quand je mens. C'est toujours aux gens qui m'aiment. Ouais, ça y est, on est des grands. Tout qu'on ouvre des sociétés. Mon loup, les rendez-vous parce que la veille, j'étais trop pété. Les cassos, la vie active. Jamais on fait comme les autres. On s'en va au casse-pipe parce que nous on est des hommes. Ouais, mentalité chelou. Nique sa mère, ça vient de chez nous. Nous on aime les grosses machines. Pour la construire, un Zedou, un Z1000 ou un Z4. Je crois que la vie c'est que des étapes. Donc faut faire ton équipe et garder la même qu'au départ. Nous on avancera groupé. Pas de question pour pas douter. Fond de deuxième à 140. La poisse, réussir à la doubler.
J'ai grandi dans ma tête. J'ai perdu dans la fête. J'ai grandi dans ma tête. J'ai tout dit dans la tête, je serai plus dans le mal, sentimental.
Quand tout s'enflamme,
je serai plus dans le mal, sentimental.
Quand tout s'enflamme,
je serai plus dans le mal, sentimental.
C'était Quand tout s'enflamme de Giorgio et PLK et c'était vraiment bien.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec le rappeur Giorgio et nous parlons de clichés, de déconstruction du rap français. J'ai envie de poser une question qui est un peu la question du rap au fond. C'est quoi le flow? C'est quoi le bon flow pour vous?
Le bon flow, je pourrais pas répondre, mais le flow, en fait, c'est la manière de rapper, de parce que donc le but, c'est que la rime elle tombe sur la fin de la mesure, quoi, sur le quatrième temps. Et en fait, pour arriver à ça, on peut accélérer, débiter, au contraire, être très lent, mettre plus ou moins de mots. Et en fait, la manière de rapper, de faire tomber ses rimes, etc., ça nous donne notre flow, quoi.
Ouais. Et comment ça se travaille?
Comment ça se travaille? Ça se travaille, je pense, déjà en écoutant du rap pour bien comprendre comment on fait. Et puis après, à force d'écrire, en fonction des instrus, des BPM, donc des rythmes, des musiques, de placer ses phrases, d'agencer ses mots, etc., de voir comment on veut faire tomber les rimes.
Oui, parce qu'on peut les faire tomber, à l'endroit du beat, ou alors un peu à côté, un peu en retard, un peu en avance.
Ouais, c'est ça. C'est le flow. Après, c'est sûr que si on est trop décalé, ça va musicalement sonner un peu bizarre, mais on peut faire exprès d'être un peu avant, un peu derrière. Et donc ça se travaille, quoi. Après, c'est le style, c'est son style.
À propos de flow, je voudrais qu'on écoute une influence, je crois, importante pour vous, c'est Pop Smoke.
She like the way that I dance, she like the way that I move, she like the way that I rock, she like the way that I woo, and she let it clap for a nigga, she let it clap for a nigga. And she throw it back for a nigga. Yeah, she throw it back for a nigga. Micah Mary, Micah Mary. Billie Jean, Billie Jean. Christian Dior, Dior. I'm up in all the stores. When it rains, it pours. She like the way I Micah Mary, Micah Mary. Billie Jean, Billie Jean.
Est-ce qu'on peut, on peut faire ça quand on est français?
Ouais, il y en a, c'est un style de rap qui s'appelle la drill, et il y en a qui le font de plus en plus en France. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec Pop Smoke, c'est que c'était le rap new-yorkais. Vraiment, il y a une culture du rap new-yorkais, de la scène new-yorkaise, etc. depuis le début des années 90, qui m'a vachement marqué, qui m'a énormément plu. Et il y avait plus grand monde à New York depuis quelques années. Et c'est vrai que ces dernières années, Pop Smoke avait, parce que malheureusement il est décédé, avait vraiment remis New York sur la carte du rap avec ce style de rap, la drill et sa manière de le faire.
Comment vous définiriez la drill?
Je pense que je suis pas le mieux placé pour définir comme ça en quelques mots.
Je rassure les auditeurs de France Inter non plus, donc juste qu'on comprenne en quoi c'est différent, quoi.
C'est la manière de justement les flows qui vont être plus rapides, les charlets, comme le style d'instru, et puis aussi ce que ça va raconter. C'est une musique qui va être assez violente dans les paroles, dans ce que ça dit et tout, quoi.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a assez trash dans le talk, mais il y a une forme de douceur et de souplesse dans le flow quand même.
En même temps, on peut dire que c'est un flow assez dur parce qu'il est très très rythmé, très très court, assez incisif.
Ouais, j'ai dit n'importe quoi. autre influence, c'était Nekfeu. Vous en parlez souvent. Vous savez pourquoi il a disparu?
Non, je pense que il a sorti un album avec son groupe Le Escrow l'année dernière, il me semble, ou il y a deux ans maintenant, je sais plus trop. Et je crois que c'était l'année dernière. Et puis, je pense qu'il fait ses trucs, quoi.
Ouais. Alors, on va justement écouter Nekfeu.
Tout à l'heure, avant de qu'on commence, il m'a dit que genre mon rap c'était trop sage. Et en fait, c'est vraiment une de mes aspirations, la sagesse entre guillemets, la paix intérieure. Et je suis vraiment content d'avoir rendu ma violence douce à vos oreilles. Après, je pense que c'est vraiment une différence de culture, quoi. Parce que moi, les grands rappeurs qui m'ont fait, j'ai bossé avec eux. On se comprend, quand on parle de musique, on se comprend. Vous, ça se voit que c'est pas trop votre domaine.
Non, c'est pour ça, avec humilité, je vous dis que bonne chance.
C'était pas très humble, c'était plus une genre de battle, mais donc je pense à bien.
Alors, Georges, je contextualise un peu. En fait, c'est Nekfeu qui répond à Yann Moix, qui lui dit que sa musique, en gros, est trop douce. Et il répond à un truc dingue, qui est d'ailleurs une déconstruction en elle seule du cliché sur le rap. Il dit, mais moi, en fait, c'est ça que je cherche. Je cherche la sagesse, je cherche la paix intérieure.
Ouais, c'est trop bien de l'obtenir grâce à la musique ou même de manière autre. Et évidemment, je souhaite d'ailleurs à tout homme sur Terre d'être en paix avec lui-même, avec les autres et d'une forme de sagesse.
Et vous, Giorgio, qu'est-ce qui vous apaise vraiment? Qu'est-ce qui vous donne confiance?
Qu'est-ce qui me donne confiance et qui m'apaise? Je pense que c'est, d'une certaine manière, c'est mes actes. Plus je vais bien agir, bien me comporter, bien réagir aux situations, plus en fait ça me fait grandir. Je me rends compte que je suis capable de ça, que de dire non, que justement de savoir dire oui à d'autres choses, d'avancer. Et du coup, je m'auto-valide d'une certaine manière et ça fait grandir. Ouais.
C'est intéressant ce que vous dites parce que ça a l'air de rien, mais plein de gens pensent que justement on va trouver l'apaisement quand on se retire de l'action, qu'on s'isole, qu'on se détend, qu'on médite, alors qu'en fait pas du tout. Hein. C'est souvent l'action qui soulage de l'angoisse.
Ouais, tout à fait. Ouais.
D'ailleurs, il y a une phrase du philosophe Alain que j'adore, j'aimerais vous la soumettre. Il dit, c'est une phrase assez géniale, le secret de l'action, c'est de s'y mettre.
Ouais, vraiment, en vrai, c'est ça, c'est de faire les choses.
Ouais, de les faire. Alors on va écouter, pour essayer de comprendre encore toute la panel de votre art, ce duo avec Cœur de Pirate, parce que justement, on parlait de douceur avec Nekfeu, et ben je trouve que là, on est dans la douceur.
Laisse-moi partir, devenir qu'un esprit, est-ce qu'on s'élevait loin de nous, loin d'ici. On s'était dit tant de promesses au début, au plus profond de moi. Mais laisse-moi partir cette fois.
Parfois j'ai l'impression que le monde m'appartient. Puis parfois j'ai l'impression que c'est bientôt la fin. J'attends plus rien d'elle, non, j'attends plus rien d'elle. J'ai pensé à une fille toute la semaine, pas un signe de vie sur mon tel. Mes gars m'ont dit n'attendent plus rien de l'amour, la plupart n'y croient plus. On est juste en fin de vingtaine et c'est que maintenant qu'on quitte la rue. J'ai du mal à croire qu'avec les femmes on a déjà tout vécu. Un drap blanc sur mon cœur noir, si je parle trop je me sens dévêtu. Tellement ambitieux que je préfère rester seul. On vit jamais trop haut Visualise l'avenir sans mauvais œil. Besoin de personne pour me distraire ou pour me forcer à mentir à moi-même. Je me sens entier dans la paix, pas besoin de problème. Ça fait longtemps que j'ai pas dit je t'aime, je sais même plus si j'en suis capable. J'attendais un signe du ciel, puis quand il est tombé, je crois que je suis tombé aussi. Et quitte à me faire.
Alors, Jean-Jo, c'était votre duo avec Cœur de Pirate. Comment s'appelle ce morceau déjà?
Concept flou.
Ah, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est flou dans l'histoire?
L'amour.
Ouais.
L'amour, parce qu'il peut exister sous plein de formes différentes. Et là, ça parle pas d'une fille en particulier, mais ça a plus d'état d'esprit, justement, par rapport à l'amour et à quel point on peut tomber quand, et être dans une totale désillusion quand ça s'arrête. Puis en fait, c'est ce que je dis dans le refrain, voilà, je sais ce que c'est que tomber, je sais ce que c'est que se relever. Mais finalement, tout le reste, ça reste encore un peu flou.
Ouais, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase, on s'arrêtera là-dessus, de Marc Aurèle, à laquelle parfois votre flow me fait penser, Marc Aurèle qui disait « la douceur est invincible ».
Je suis assez d'accord, je pense que dans le monde, c'est toujours l'amour qui gagne.
Ouais, bah c'était une belle fin, on aura envie de conclure là-dessus, mais j'ai juste envie de vous parler d'un dernier truc. Vous avez grandi à Max-Dormois, vous êtes un enfant de Seine-Saint-Denis, aussi de Paris 18e. Qu'est-ce que vous avez pensé peut-être à l'époque de Doc Gynéco? Parce que je me souviens de ces textes, notamment « Les seringues mortes se ramassent à la pelle sur les trottoirs de Paris, la chapelle ». Et quelque chose me dit que vous avez dû rencontrer Doc Gynéco dans votre parcours.
Ouais, on s'est croisé. Moi, je suis arrivé à Max-Dormois, je crois, j'avais 16 ans. Mmh. Et donc, quand il rappait ça, j'habitais pas là-bas. Ouais. Mais, on s'est déjà croisé. Et puis, première consultation, c'est un classique du rap français et c'est un super album, ouais.
Il y a une belle écriture, hein.
Ouais, carrément. Après, j'avoue que j'ai moins écouté par la suite, mais cet album-là, pour moi, c'est une pièce maîtresse du rap français.
Vous n'êtes pas le seul. Et puis lui, il s'est aussi moins intéressé à son propre art, on dirait. En tout cas, on se souvient, hein, si toutes les meufs étaient carrées comme Maria, je fumerais moins, je boirais moins de Bavaria. Merci beaucoup, Giorgio, de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon. Ça fait plaisir, on a fait un panorama du rap français, on a essayé de déconstruire des clichés. On a d'ailleurs compris en vous écoutant que souvent, on a un cliché, on a un préjugé parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'y est pas allé. Parfois d'ailleurs on a un mépris de classe, voire un peu de racisme dans ces clichés. Et ça nous a fait du bien de déconstruire ces clichés, comme d'ailleurs vous nous l'avez rappelé, de déconstruire une certaine image de la masculinité. Merci beaucoup, je vais essayer pour vous remercier de brosser la philosophie de la vie qui a été la vôtre. Alors on a bien vu une philosophie du décloisonnement, vous aimez y aller d'un genre à l'autre, la musique, la littérature, la peinture, Basquiat, Frida Kahlo, mais cette douceur n'est pas incompatible avec parfois un peu de rage, un peu de énervement, un peu de hardcore aussi, vous avez quand même commencé un peu énervé. Vous n'avez d'ailleurs pas hésité à me recadrer quand il le fallait, quand je ne comprenais rien, quand je parlais d'un flow souple et doux, vous me disiez mais non, là il est plutôt nerveux, il est plutôt dur. Et puis surtout ce qu'on a entendu qui est très intéressant, c'est une philosophie, je dirais une éthique du travail aussi, hein, de la persévérance. Vous dites voilà, le rap m'a appris certaines valeurs, notamment la persévérance. Quand j'étais dans l'intérim, j'en avais rien à faire, mais quand j'ai commencé à aimer la musique, j'ai commencé à avoir le cœur à l'ouvrage et je conclue là-dessus, une éthique du travail, de la persévérance et de l'action. C'est très beau ce que vous nous avez dit, c'est l'action qui libère de l'angoisse et pas l'introspection. On imagine d'ailleurs que quand vous allez au début d'un concert, quand vous prenez la scène, ce qui vous fait du bien, et bien précisément, c'est d'y aller, un peu comme le disait le philosophe Alain. Le secret de l'action, et bien pour un rappeur encore plus, c'est d'y aller. Merci beaucoup, Giorgio, d'être venu justement avec nous ce matin. Merci beaucoup. Cette émission a été préparée par Estelle Gap, réalisée par Antoine Larcher. Merci beaucoup Antoine. Avec à la technique Corentin Rouchy et à la programmation musicale Valentine Chedebois, qui nous a choisi les deux excellents morceaux de votre dernier album, Giorgio, Nos années sauvages, partie 2. Quant à moi, chers auditeurs, je vous retrouve lundi matin à 9h exactement dans la caverne de France Inter sous le soleil de Platon. Bon week-end.